Bonsoir Jérôme, bonsoir chers amis. Donc le goût de lire, c'était ce dont nous parlait le père Faber la semaine dernière. Et si vous vous souvenez, il expliquait combien lire, faire la lectio divina, la lecture spirituelle, était un acte d'humilité qui nous permettait d'entrer dans de nouvelles connaissances du mystère de Dieu, parce que justement nous considérons que nous ne sommes même pas assez bien équipés pour penser par nous-mêmes et qu'il nous faut lire ce que d'autres, plus saints que nous, plus sages que nous, ont pensé avant nous. Donc c'était la première grande récompense de ce goût de la lecture spirituelle, des grâces d'humilité et des grâces de connaissance. Nous progressons et nous trouvons un second cadeau que nous apporte la lecture spirituelle, c'est l'aide de Dieu, l'aide de la force de Dieu dans nos combats spirituels. Il faut bien tenir compte de l'aide que la lecture de livres qui parlent de Dieu, de la sainteté, de l'Évangile, l'aide que tout cela nous apporte dans les combats de la vie spirituelle. Simplement lire. Simplement lire des textes qui nous parlent de l'amour de Dieu et de la victoire de l'amour sur le mal et sur les ténèbres, en nous et autour de nous, simplement lire réveille notre ardeur. Il y a la grâce de Dieu qui est là, qui travaille, mais nous sommes fortifiés par ce contact avec la lumière de Dieu grâce aux moyens de la lecture. Cette lecture spirituelle va réveiller nos affections envers Dieu. Elle va doucement et paisiblement comme nous forcer à produire des actes d'amour. Un des signes que le livre spirituel que nous sommes en train de lire est adapté pour nous aujourd'hui, c'est lorsque nous avons envie de le poser, d'arrêter de lire, bien que ça nous intéresse beaucoup, pour pouvoir dire au Seigneur notre amour. Comme le disaient les anciens pères de l'Église au IVe siècle, il y a un moment, eux ils parlaient plutôt de la composition de leur traité, il y a un moment où on pose le stylo et où on se met à chanter une louange, on se met à chanter une hymne. Parce qu'on ne peut plus continuer à écrire, on est trop saisi par les mystères de l'amour de Dieu qu'on est en train d'essayer d'exposer dans la préparation d'un sermon ou dans la rédaction d'une lettre spirituelle ou d'un traité spirituel, on pose le stylo et on chante la gloire de Dieu. Eh bien, pour la lecture, c'est vraiment un très bon indice, un très bon baromètre que nous sommes en train de lire le bon livre au bon moment, celui qui contient ce qui va nous faire le maximum de bien aujourd'hui. Nous sommes forcés à produire des actes de charité, de foi et d'espérance. Nous sommes comme emportés pour redire à Dieu notre désir de sainteté ou bien notre contrition. Parce qu'il n'y a pas que la louange dans la vie quand même, il y a aussi des moments un petit peu moins joyeux peut-être où il faut être dans la contrition. Où, en lisant les splendeurs de l'amour de Dieu, dans l'Évangile, dans l'Écriture ou dans la vie des saints, eh bien nous battons notre coulpe au sens propre même, peut-être, pas seulement au sens figuré, et nous disons au Seigneur, mais qu'ai-je fait de ta grâce, Seigneur, quand je vois ce qu'elle est et ce que d'autres ont pu vivre avec ta grâce? Donc pas seulement la louange, mais aussi, nous dit le Père Faber, la contrition. C'est le côté un peu sérieux du Père Frédéric. Ces lectures vont être pour nous comme des inspirations. Alors des inspirations parce que nous sommes dans le domaine de la lecture spirituelle, des inspirations au sens le plus fort du terme, c'est-à-dire des travaux du Saint-Esprit en nous, des inspirations du souffle divin. De chaque page, lorsque la lecture est bonne, il y a comme des voix qui viennent de Dieu et qui se mettent à travailler dans le plus profond de notre conscience, de notre cœur, de notre âme. Et voilà pourquoi la lecture spirituelle, ce qu'on a appelé avec le vieux nom latin qui vient surtout du Moyen-Âge, la lectio divina, la lecture divine. Voilà pourquoi la lecture divine est naturellement un des exercices de la vie spirituelle. Alors, on l'avait dit un peu et déjà les années précédentes, depuis les origines de la spiritualité chrétienne, il y a cet exercice à la fois joyeux et douloureux de la lecture, au moins des psaumes, ou de l'apprentissage par cœur pour pouvoir se redire les psaumes et l'évangile. Et dès que la lecture a été accessible, donc on est à la fin du Moyen-Âge, la lecture devient vraiment un exercice qui permet de vivre la vie spirituelle et de la faire grandir. Comme un certain nombre de ceux qui l'ont précédé dans le domaine de la spiritualité, le père Faber nous dit que la lecture comprise de cette manière est une espèce de prière. Une espèce de prière. Alors, dans les deux sens du terme, si vous voulez, c'est-à-dire, on peut appeler ça de la prière, donc à ce moment-là, ça fait partie d'une des catégories de prière, ou bien quelque chose qui s'approche de la prière. C'est une forme spéciale de prière. Pourtant, on entend parfois l'adage qui dit « quand on lit, on cherche Dieu, quand on prie, on le trouve », pour essayer de montrer que ce n'est pas la même chose lire et prier. Et que ne faire que lire, c'est vraiment lorsque la prière devient quelque chose de trop difficile à cause de notre état d'âme, à cause peut-être de notre fatigue ou à cause de trop grande sécheresse, même s'il faut persévérer et persévérer encore. Donc, lire serait une forme spéciale de prière. Et la manière dont nous faisons la lecture divine est un des moments importants pour voir ce qu'est notre journée chrétienne. Pas seulement le fait que la lecture divine va avoir sa place, mais la manière de le faire. Parce qu'il n'est vraiment pas simple de réussir sa lecture divine et d'entrer dans l'esprit de la lectio divina. Dans l'histoire de l'Église, la lecture de la vie des saints en particulier a été un instrument de sainteté très énergique dans l'Église. Il y a eu une époque où vraiment la lecture de la vie des saints, y compris, peut-être que vous vous souvenez de ce détail historique, la lecture de la vie des saints comme cela se passait dans la famille de Saint Jean-Marie Vianney, lorsque c'était possible, accompli par le père de famille ou par la mère de famille, le soir, à la veillée, un passage soit d'histoire sainte, c'est-à-dire la Bible un peu romancée, soit un passage de la vie des saints. La journée se terminait bien souvent comme cela, et cela avait un côté récréatif aussi, selon le talent de la personne qui accomplissait ce ministère de lecture, mais qui n'était pas la lecture de la parole de Dieu, c'était la lecture beaucoup de la vie des saints, présentée de façon attrayante, peut-être parfois un peu trop romancée, et là, il y avait des choses à rectifier, mais qui permettait d'avoir des exemples concrets, des exemples vivants. Alors avec toujours cette difficulté de ne pas tomber dans le littéralisme et dans le fondamentalisme, ce n'est pas parce que tel saint a fait telle chose qu'il faut l'imiter dans les 10 minutes qui suivent la lecture. Il fallait qu'il y ait en effet, en même temps que la lecture de la vie des saints, une sorte de catéchèse qui adaptait ou même qui relativisait ce qu'on avait pu entendre pendant cette lecture de la vie des saints. Vous vous souvenez à quel point le père Faber a pratiqué intensément lui-même, pour sa conversion, cette lecture de la vie des saints. Et il fait un peu d'autobiographie en disant « En recueillant avec soin nos souvenirs, nous pouvons être surpris de voir tout ce que nous devons à l'étude de la vie des saints dans nos efforts pour devenir des êtres spirituels. » Nous devons considérer la lecture proprement spirituelle, vraiment ce qu'on appelle la lecture divine, comme faisant partie de la vie spirituelle, et comme un de ces exercices habituellement, généralement, indispensable ou peu s'en faut. Alors peut-être il faudrait un tout petit peu nuancer l'affirmation du père Faber en disant qu'il y a des étapes dans la vie spirituelle où la lecture peut prendre beaucoup moins de place. Et ce ne sont pas les étapes du début, c'est plutôt celles de la fin. Donc il n'y a rien d'inquiétant à ce qu'on puisse constater avec son confesseur que le goût de lire s'est modifié. Il n'a pas disparu, mais il s'est modifié. Et là, nous avons, dans l'édition que j'ai sous les yeux, une note en bas de page, en tout petit caractère, qui pourtant est absolument essentielle. Et le père Faber nous dit « Je n'arrive pas à résister à la tentation de citer, mais est-ce une tentation, pour votre avantage, ô cher lecteur, un passage d'un auteur qui mériterait d'être écrit en lettres d'or. » Et voilà la citation. Donc l'auteur, c'est un certain Dacrianus. Alors, c'est vrai que je n'ai pas eu le... qui est cité lui-même par un certain Nigroni. Mais peu importe, on est dans des auteurs après le Moyen-Âge on ne sait pas toujours exactement si ce qu'ils écrivent vient d'eux ou ils sont allés le chercher dans des auteurs beaucoup plus anciens des premiers siècles de l'Église. C'est le contenu qui nous intéresse. Le voici. N'imitez pas ceux qui lisent sans ordre tout ce qui se trouve sous leurs mains et qui lisent seulement par plaisir. Voilà, donc, être un dilettante dans le domaine de la lecture divine, c'est vraiment interdit. Il n'est pas question de lire ce qui nous tombe sous la main. C'est la recommandation et le père Faber la fait sienne. Donc, la pratique qui consisterait à aller dans une librairie religieuse ou dans une bibliothèque religieuse et à prendre ce qui nous plaît parce que la couverture nous plaît, parce que le titre nous plaît, le père Faber dit à quel point, avec cet auteur, donc il se retranche un peu derrière une autorité parce qu'il sent que ce qu'il est en train de nous dire peut être un peu dérangeant, il nous dit à quel point il n'est pas d'accord. La suite. Rien ne plaît à ces personnes que ce qui est nouveau et extraordinaire. Mais ce qui est ancien et commun développe en eux du mépris, quelle que soit l'utilité réelle de ces livres anciens et communs. Ne vous laissez pas aller à une telle légèreté. Une telle légèreté dans le domaine de la lecture divine va dissiper la vie spirituelle au lieu de la faire avancer. Cette maladie, donc du dilettantisme, est dangereuse. Voilà le critère. Alors, en préparant l'émission et en lisant et en relisant cette citation, j'ai pas pu m'empêcher de penser que le père Faber parlait bien sûr pour lui-même, et que s'il avait eu cette tentation au début de sa conversion, eh bien, il avait lutté contre. Il avait essayé de trouver des auteurs qui soient solides, qui soient éprouvés, qu'on lise depuis longtemps déjà, et qui ne disent que des choses communes, aucune originalité. Plutôt que de chercher à être original, chercher à être profond. Plutôt que de se renouveler en faisant choc, il faut arriver à se renouveler en allant toujours plus loin dans la profondeur de la connaissance du mystère. Donc ce qui est nouveau et extraordinaire doit être, a priori, sauf preuve du contraire, laissé de côté. Et finalement, c'est un petit peu le projet de cette émission que d'essayer de retrouver des textes qui ont fait leur preuve pendant des dizaines d'années ou des centaines d'années, qui ne contiennent rien de nouveau, rien d'extraordinaire, mais qui sont de la plus grande solidité possible. Même s'ils sont déconcertants, même s'ils ont une sonorité qui nous paraît étonnante, ils se recommandent par la force de leur doctrine, en même temps que par le fait qu'on a pu reconnaître l'arbre à ses fruits. Il faut du temps pour pouvoir évaluer la qualité d'un auteur spirituel. Alors peut-être que certains ont eu un succès immédiat parce qu'on a reconnu immédiatement leurs fruits et leurs valeurs, mais c'est vraiment rare. Donc, c'est pas seulement méfions-nous de ce qui est nouveau et extraordinaire, mais reconnaissons que c'est dangereux. Et faisons des choix, aidés par le confesseur, en utilisant les grandes avenues, les autoroutes de la spiritualité, où déjà des millions et des millions de priants ont circulé avant nous, et sur lesquels ils ont été en sécurité, et sur lesquels ils ont pu avancer leur chemin. Ils ont pu progresser vers la communion avec le Seigneur. Voilà la petite note en bas de page du Père Faber. Ce que j'ai maintenant à dire comprend même la lecture qui n'est pas directement spirituelle. Alors, c'est à cause d'un passage comme ça qu'on va classer le Père Faber parmi les humanistes. Parce que il nous dit, mais vous n'êtes pas obligé de faire du 100% spirituel. Il y a des lectures qui ne sont pas du domaine de la foi et qui peuvent vous faire un bien immense. Ce sont des lectures neutres ou des lectures qui s'approchent de la connaissance du Seigneur Jésus. Tout le monde reconnaît les effets bons et profondément bons de la lecture religieuse sur la prière. Donc oui, nous allons privilégier la lecture religieuse. Pour l'immense majorité des croyants, la prière profonde, la prière silencieuse, l'oraison, la prière contemplative est la grande difficulté. Et si nous arrivons à surmonter cette difficulté de la grande prière, de la prière des saints, eh bien, nous allons ensuite surmonter d'autres difficultés de la vie spirituelle. Donc il vaut toujours la peine de se fatiguer pour améliorer sa prière. Eh bien, la lecture spirituelle avant tout, va alimenter et approvisionner la prière. Voilà, c'est un aliment pour la prière. Autrement dit, la lecture offre aussi un grand terrain pour la prière. Elle plante des arbres pour que nous ayons une forêt spirituelle, et même elle arrose le désert pour que poussent des plantes porteuses de fruits là où rien ne pouvait pousser. Les anciens maîtres disent que la lecture est l'huile de la lampe de l'horizon, de l'oraison. C'est une tentative d'interprétation de la parabole des vierges sages et des vierges folles, avec cette petite précision que le mot vierge n'est pas forcément du féminin ici. Donc c'est difficile de traduire, parce que lorsqu'on traduit, on va mettre du masculin ou du féminin. Alors on peut parler aussi des vierges sages et des vierges fous. Alors, si vous préférez, les célibataires consacrés fous, voilà, qui manquent de sagesse. Tous ceux qui sont consacrés au Seigneur Tout-Puissant dans une vie de prière et de service. Et cette parabole du Seigneur Jésus nous parle de l'huile dans les lampes que les insensés n'ont pas en quantité suffisante. Voilà que nos spirituels s'emparent de cette parabole et disent « mais nous avons une interprétation, en fait, c'est la lectio divina, l'huile ». Et s'il n'y a pas assez de lectio divina, la lampe de votre prière va s'éteindre. Et lorsque la lampe de votre prière commence à donner des signes de faiblesse, interrogez-vous sur le statut de la lecture divine dans votre vie quotidienne ou sur toute une semaine de vie chrétienne. C'est l'huile de la lampe de la prière. Il y a bien des personnes, et des personnes qui n'en sont pas au tout début de leur apprentissage, qui se plaignent de ne pas savoir à quoi penser pendant leur méditation, ou qui se plaignent de ne pas savoir quoi dire à Dieu pendant leur temps de prière. Eh bien, je peux dire avec assurance que plus de la moitié des difficultés de la méditation, toujours les fameux chiffres, les pourcentages du père Faber, donc 50%, affirme-t-il, pas de problème, ça ne gêne pas de nous mettre des chiffres précis et carrés. Donc 50% des difficultés, même plus de 50%, vont être levées par la pratique régulière de la lecture spirituelle, mais pas seulement par la pratique régulière, par l'utilisation judicieuse et pertinente de la lecture spirituelle. Donc, ne lui faisons pas dire ce qu'il n'a pas dit, ce n'est pas la lecture qui va améliorer à plus de 50% la méditation, qui va en tout cas retirer plus de 50% des difficultés, c'est l'utilisation judicieuse et pertinente de la lecture spirituelle. Et le problème est là, une fois qu'on a réglé le problème d'avoir décidé de consacrer du temps à la lecture, eh bien, il va s'agir de trouver comment remplir ce temps de lecture. Avec quoi? Avec quel matériel? Avec quel combustible nous allons alimenter le four de la lecture? Et s'il n'y a pas cet emploi judicieux et pertinent, eh bien, cette fameuse amélioration de la vie de prière n'aura pas lieu. S'il est triste d'être obligé de batailler pour son temps de prière après 20 ans passés à apprendre à prier, eh bien nous pouvons nous consoler en nous souvenant que Sainte Thérèse d'Avila n'aura pas à passer moins de 17 années à ce combat pour apprendre à avoir une lecture spirituelle qui la fasse rentrer profondément dans l'oraison et dans la vie d'oraison. Sainte Thérèse d'Avila, elle apparaît à chaque fois, quand il y a des choses vraiment déterminantes, on la voit émerger des pensées et des écrits du père Faber comme une référence immense. Et là, cette idée, cette vérité historique, de plus de 17 ans pendant lesquels, étant déjà religieuse, Sainte Thérèse d'Avila, finalement, on peut dire, n'arrive pas à prier. Et il va falloir une intervention du Seigneur pour qu'il y ait une forme de conversion en elle. Mais après cette intervention, cette grâce de Dieu, elle nous dira « Je ne vais jamais à l'oraison sans emporter un livre ». Elle, l'immense mystique, elle qui était transportée au plus haut des cieux, « Je ne vais jamais à l'oraison sans emporter un livre », même si elle ne l'utilise pas. Alors, acte d'humilité aussi. Mais un livre, et elle nous le dira, elle nous le dit comme le père Faber, un bon livre, un vrai. Pourquoi le père Faber nous dit-il qu'il peut s'agir aussi de lecture pas spirituelle, de lecture humaniste, de lecture même, pourquoi pas, scientifique, des livres d'astrophysique, des livres de biologie cellulaire, tout ce qu'on veut? Eh bien, nous allons le comprendre un peu mieux avec ce nouvel avantage du goût de lire dont il nous parle tout de suite. La lecture nous rend aussi un service considérable, celui d'occuper le temps. Le père Faber ne se fait pas d'illusions, même les gens qui disent qu'ils sont absolument débordés ont quand même de temps en temps, ne serait-ce que la nuit, quelques minutes 3 minutes, 5 minutes pour lire quelque chose d'un peu intéressant, ne serait-ce que pour enrichir leur âme d'autre chose que de la vie quotidienne. L'usage du temps, dit-il. Voilà une grande difficulté de la vie spirituelle. Comment bien utiliser son temps, c'est-à-dire comment l'utiliser selon la volonté de Dieu, comment l'utiliser de manière conforme à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. Presque dans toutes nos journées, il y a des intervalles qui seront vraisemblablement remplis par des inutilités. Voilà une délicatesse dans l'expression à laquelle nous n'avons pas toujours été habitués. Donc, c'est vraisemblablement, il y aura des intervalles remplis par des inutilités. Ces inutilités sont peut-être très innocentes, mais malheureusement, combien l'esprit s'évapore à cause de ces inutilités et pendant ces inutilités. C'est alors qu'une lecture bien choisie, même sur un sujet totalement profane, donc parlons pas précisément de la lecture spirituelle qui nous met directement en rapport avec Dieu, eh bien une lecture bien choisie viendra non seulement pour nous faire éviter le mal, mais encore pour nous procurer un vrai bien. C'est quelque chose de très étonnant dans les conseils des maîtres spirituels que d'avoir sous la main un livre, même dans une science totalement profane, mais un livre qui nous passionne, un sujet qui nous passionne, et lorsqu'il y a des tentations, sauf les tentations contre la foi, bien sûr, puisque là, il faut quelque chose qui parle de Dieu, qui nous met directement en rapport avec Dieu. Lorsqu'il y a des tentations, eh bien, se plonger dans cette lecture. Alors, pas se plonger comme dans un narcotique, mais élever notre intelligence, élever notre esprit. Il y a aussi tous les livres dans le domaine artistique, que ce soit les livres qui nous parlent de musique, même si ça peut paraître étonnant, plutôt que d'écouter de la musique, de lire des analyses de grands chefs-d'œuvre musicaux qui nous parlent de grands compositeurs, tous les livres du domaine artistique, quel que soit l'art dont il s'agit, et qui permettent d'éviter le mal, tout simplement d'éviter le mal. C'est, au sens le plus propre du terme, un passe-temps, mais qui fait passer le temps du négatif au positif. Non pas qui fait passer le temps, qui le fait s'écouler plus vite, mais qui transforme le temps. Eh bien, ce passe-temps va entrer dans notre cœur, va occuper notre cœur à des choses bonnes, et va mettre une garnison de pensées bonnes ou même divines. Si ce n'est pas le moment de faire du pur spirituel, au moins des pensées bonnes, des pensées qui conduisent à nous émerveiller devant les splendeurs de la création. Eh bien, cette garnison de pensées bonnes va empêcher l'esprit du mal de pouvoir entrer, même d'une manière détournée, dans le sanctuaire de notre conscience. Nous sommes encore une fois en 1850 avec le père Faber, et voilà ce qu'il analyse. Il dit « De nos jours, il y a dans l'atmosphère qui nous environne deux influences qui sont mauvaises pour la vie spirituelle. » La première, on revient à toute première ligne du père Faber, la multiplicité des intérêts. Vous vous souvenez, est-ce que nous cherchons des intérêts financiers, politiques, des intérêts pour nous, ou bien est-ce que nous nous mettons au service des intérêts de Jésus? Donc, la multiplicité des intérêts, et la deuxième influence, c'est la succession rapide de toutes choses. Nous sommes en 1850. La succession des activités, la succession des événements est trop rapide et empêche cette forme de stabilité absolument nécessaire à la vie spirituelle profonde. Il est triste de voir combien ces deux choses réussissent à chasser Dieu de nos cœurs en empiétant ligne par ligne. Et ainsi, l'occupation à des sujets spirituels, pas forcément 100% religieux, mais spirituels, est devenue encore plus importante pour nos esprits qu'elle ne l'était auparavant, qu'elle l'était avant, donc ce qu'on pourrait appeler l'âge de la révolution industrielle qui a précédé ce que nous croyons être la révolution numérique. Peut-être qu'un jour, nous découvrirons que ce n'était pas l'essentiel de ce que nous vivons, mais peut-être bien quand même, la révolution numérique qui amplifie tellement ce que nous décrit le père Faber. Pour ceux qui sont dans le monde, donc tous ceux qui ne sont pas dans un cloître, tous ceux qui ne sont pas à la Chartreuse, et donc qui par définition, s'ils sont à la Chartreuse, ceux-là n'écoutent pas la radio. Je sais que c'est très très décevant pour ceux qui travaillent nuit et jour avec Radio Maria France, mais ceux qui sont dans leur Chartreuse n'écoutent pas la radio. Alors pour tous les autres, eh bien, ceux qui sont dans ce monde encore bien différent de celui du père Faber, eh bien, ceux qui sont obligés d'entendre le fracas de la vie, de voir les révolutions de l'existence, eh bien, ceux-là ont besoin encore davantage de cette lecture. Je n'ai pas besoin d'insister, écrit le père Faber, mais on peut difficilement exagérer le danger de cette multiplicité d'intérêts et de cette rapidité dans l'enchaînement des activités. Il est donc nécessaire d'avoir du goût pour la lecture à cause de ce qu'est notre époque, peut-être encore davantage nécessaire. Alors pour le père Faber, la question du support pour la lecture ne se posait pas, mais aujourd'hui, ceux qui essayent d'implorer les lumières de Dieu et de réfléchir autant qu'ils le peuvent avec leur capacité de penser, semblent un peu tous d'accord pour dire que le support numérique n'est pas favorable à la Lectio Divina. Voilà, c'est une prise de position, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est reprendre une affirmation déjà entendue. Le livre silencieux et totalement apaisé, le livre sans aucune connexion électrique, électronique ou numérique, le livre est plus favorable à la lecture spirituelle. Et le livre apporte cet apaisement silencieux. Donc pour le père Faber, les choses étaient évidentes. On essaye de trouver un espace de silence, sans musique, sans chose qui nous distrait. Et même si la lecture n'est pas très très longue, elle se passe dans les conditions de calme et de recueillement les plus grandes possibles, et elles permettent une lecture particulièrement lente et attentive. Une lecture sans curiosité. Une lecture dans l'humilité, dans la patience, une lecture qui implore l'Esprit Saint de travailler encore bien davantage que notre propre esprit pendant qu'il est en train de déchiffrer les caractères du livre. Enfin, autre élément pour ce soir, occuper nos pensées par la lecture nous empêche de faire des châteaux en Espagne. Il utilise l'expression, nous empêche de nous bercer d'illusions. Il revient à son grand thème des illusions. Et se bercer d'illusions, c'est une maladie ruineuse pour la vie spirituelle. Je pense qu'il a suffisamment développé sa pensée sur ce sujet, mais là, il nous offre encore un remède particulier pour lutter contre les illusions. Ce serait peut-être trop dire que ce remède va couper court définitivement à la maladie des illusions, mais au moins il rend cette maladie moins dangereuse et moins étendue. Ce remède va nous servir de deux manières dans les tentations. D'abord d'une façon négative, parce que toute occupation, et la lecture spirituelle est une grande occupation, est incompatible avec l'existence même de ce développement des illusions. Voilà. Quand nous sommes en train de méditer un texte sur la Sainte Trinité, nous ne sommes pas en train de penser que nous sommes le plus grand saint ou la plus grande sainte du siècle et que Dieu nous donne une mission absolument hors du commun et qu'il faut que tout le monde nous écoute, que tout le monde reconnaisse nos qualités, nos vertus, que tout le monde reconnaisse que nous sommes la personne qui a le meilleur goût musical de toute la région, voilà, toutes ces illusions. Et au moins, pendant que nous sommes en train de méditer sur le mystère de la Sainte Trinité, pour prendre cet exemple-là, qui est l'exemple maximum, nous ne sommes pas en train de nous bercer d'illusions sur nous-mêmes. Mais il y a aussi un travail positif, une manière positive d'agir, en faisant diversion et en éclairant notre combat, contre les illusions, et en permettant à la chaleur de notre cœur de nous tourner vers quelqu'un d'autre que nous-mêmes, qui est le Seigneur Tout-Puissant, ou bien, à défaut du Seigneur Tout-Puissant, un des saints, et évidemment, au sommet, toutes ces lectures sur le mystère de la Vierge Marie, et toutes ces lectures qui permettent aussi d'entrer dans la présence et dans l'intimité de la Sainte Mère de Dieu. C'est la manière positive. Nous devons recevoir de la lecture ce moyen de guérir des illusions, parce que les illusions cherchent à meubler bien souvent l'inoccupation. Alors les illusions, du coup, nous pouvons les appeler les rêveries, nous pouvons les appeler les évasions. Donc elles sont un petit peu moins dangereuses parce qu'elles ne conduisent pas à exiger trop de choses de notre entourage. Mais il faut combattre l'une et l'autre. Nous devons, là aussi, combattre cette forme d'oisiveté que sont les rêveries, que sont les divagations de la pensée. Quelqu'un qui aurait une après-midi ou une matinée totalement libre serait presque sûr de s'éloigner vite de Dieu si elle se laissait aller à ses rêveries. Simplement s'asseoir et laisser aller son esprit, c'est se jeter dans la forêt des tentations. Alors tout à l'heure, la forêt était un endroit positif, parce qu'on imaginait plutôt un verger qu'une forêt, et là, ça devient la forêt pleine de bêtes sauvages, la forêt pleine de brigands, la forêt des tentations. C'est à ce moment-là que le livre peut devenir pour nous une forteresse, comme une véritable église, comme un espace où on pourrait imaginer les anges qui circuleraient entre chaque page pour nous apporter quelques lumières de Dieu. Donc à la place de ce maquis inquiétant, il y a ce verger rempli des fruits de la contemplation de ceux qui nous ont précédés, encore une fois, plus saints que nous, plus vertueux que nous, plus éclairés que nous. C'est ce verger dans lequel nous nous promenons et dans lequel le Seigneur lui-même nous invite à cueillir les bons fruits. Bien sûr, pas le fruit défendu, pas le fruit de la connaissance autonome du bien et du mal, pas cette volonté de s'ériger en Dieu nous-mêmes en disant « Je sais ce qui est bon pour moi, Non, les bons fruits qui nous permettent d'avancer, d'aller sur le chemin avec l'énergie nécessaire, et aussi qui nous permettent de rayonner l'amour de Dieu autour de nous. C'est la suite du texte que très certainement nous pourrons méditer la semaine prochaine, où le Père Faber nous dit « Mais la lecture n'est pas une activité individualiste. La lecture divine, la lecture spirituelle n'est pas faite pour nous centrer sur nous-mêmes, pour nous refermer sur nous-mêmes. La lecture va nous servir pour l'amour du prochain. La lecture n'est pas un moment où nous essayons d'entrer en communion avec Dieu exclusivement pour nous-mêmes, pour notre propre enrichissement, pour notre paix, pour nos victoires, pour notre propre gloire. La lecture spirituelle va être un moyen de triompher aussi dans la charité fraternelle. Si telle est la volonté de Dieu, c'est ce que nous essaierons de découvrir la semaine prochaine.